Jules Verne, sans dessus dessous, chapitre 20, qui termine cette curieuse histoire aussi véridique qu'invraisemblable. Barbicane, Nicholl, Maston, vous, nous, et dans ce pronom lancé simultanément par les deux collègues, d'un ton singulier, on sentait tout ce qu'il y avait d'ironie et de reproche. J.T. Maston passa son crochet de fer sur son front. Puis, d'une voix qui sifflait entre ses lèvres comme celle d'un aspic, eût dit Ponson du Terrail, « Votre galerie du Kilimandjaro avait bien 600 mètres sur une largeur de 27 » demanda-t-il. « Oui. »« Votre projectile pesait bien 180 millions de kilogrammes ?»« Oui. » »« Et le tir s'est bien effectué avec 2000 tonnes de mélimélonite ?»« Oui. » Ces trois « oui » tombèrent comme des coups de massue sur l'occiput de J.T. Maston. « Alors ?» « Je conclus, » reprit-il. « Comment ?» demanda le président Barbicane. « Comme ceci, » répondit J.T. Maston. « Puisque l'opération n'a pas réussi, c'est que la poudre n'a pas donné au projectile une vitesse initiale de 2800 km par seconde. « Vraiment, » fit le capitaine Nicholl, « c'est que votre mélimélonite n'est bonne qu'à charger des pistolets de paille. » Le capitaine Nicholl bondit à ce mot qui se tournait pour lui en sanglante injure. « Maston !» s'écria-t-il. « Nicholl, quand vous voudrez vous battre à la mélimélonite ? Non, au fulmicoton, c'est plus sûr !» Mrs. Evangelina Scorbitt dut intervenir pour calmer les deux irascibles artilleurs.
« Messieurs, messieurs » dit-elle, « entre collègues !»
Et alors, le président Barbicane prit la parole d'une voix plus calme, disant « À quoi bon récriminer ? Il est certain que les calculs de notre ami Maston devaient être justes. Comme il est certain que l'explosif de notre ami Nicholl devait être suffisant, oui, nous avons mis exactement en pratique les données de la science. Et cependant, l'expérience a manqué. Pour quelle raison? Peut-être ne le saura-t-on jamais. Eh bien, s'écria le secrétaire du Gun Club, nous la recommencerons. Et l'argent qui a été dépensé en pure perte, fit observer le capitaine Nicholl.
Et l'opinion publique, ajouta Mrs. Evangelina Scorbitt. Qui ne vous permettrait pas de risquer une seconde fois le sort du monde ?
Que va devenir notre domaine circumpolaire ? Répliqua le capitaine Nicholl. À quel taux vont tomber les actions de la North Polar Practical Association ? S'écria le président Barbicane. L'effondrement, il s'était produit déjà, et l'on offrait les titres par paquet au prix du vieux papier. Tel fut le résultat final de cette opération gigantesque. Tel fut le fiasco mémorable auquel aboutirent les projets surhumains de Barbicane & Co. Si jamais la risée publique se donna à libre carrière pour accabler de braves ingénieurs mal inspirés, si jamais les articles fantaisistes des journaux, les caricatures, les chansons, les parodies eurent matière à s'exercer, on peut affirmer que ce fut bien cette occasion. Le président Barbicane, les administrateurs de la nouvelle société, leurs collègues du club, furent littéralement conspués. On les qualifia parfois de façon si « gauloise » que ces qualifications ne sauraient être redites pas même en latin, pas même en zolapuc. L'Europe, surtout, s'abandonna à un déchaînement de plaisanteries telles que les Yankees finirent par être scandalisés. Et n'oubliant pas que Barbicane, Nicholl et Maston étaient d'origine américaine, qu'ils appartenaient à cette célèbre association de Baltimore, peu s'en fallut qu'ils n'obligeassent le gouvernement fédéral à déclarer la guerre à l'ancien monde. Enfin, le dernier coup fut porté par une chanson française que l'illustre Paulus, il vivait encore à cette époque, mit à la mode. Cette machine courut les cafés-concerts du monde entier. Voici quel était l'un des couplets les plus applaudis. « Pour modifier notre patraque, dont l'ancien axe se détraque, ils ont fait un canon qu'on braque, afin de mettre tout en vrac. C'est bien pour vous flanquer le trac. Ordre est donné pour qu'on les traque. Ces trois imbéciles, mais crac, le coup est parti, rien ne craque. Vive notre vieille patraque !» Enfin, saurait-on jamais à quoi était dû l'insuccès de cette entreprise ? Cet insuccès prouvait-il que l'opération était impossible à réaliser ? Que les forces dont disposent les hommes ne seront jamais suffisantes pour amener une modification dans le mouvement diurne de la Terre ? Que jamais les territoires du pôle arctique ne pourront être déplacés en latitude pour être reportés au point où les banquises et les glaces seraient naturellement fondues par les rayons solaires ? On fut fixé à ce sujet quelques jours après le retour du président Barbicane et de son collègue aux États-Unis. Une simple note parut dans Le Temps du 17 octobre et le journal de M. Hébrard rendit au monde le service de le renseigner sur ce point si intéressant pour sa sécurité. Cette note était ainsi conçue. on sait quel a été le résultat nul de l'entreprise qui avait pour but la création d'un nouvel axe. Cependant, les calculs de J.T. Maston, reposant sur des données justes, auraient produit les résultats cherchés si, par suite d'une distraction inexplicable, ils n'eussent été entachés d'erreurs dès le début. En effet, lorsque le célèbre secrétaire du Gun Club a pris pour base la circonférence du sphéroïde terrestre, il l'a porté à 40 000 mètres au lieu de 40 000 kilomètres, ce qui a faussé la solution du problème. D'où a pu venir une pareille erreur? Qui a pu la causer? Comment un aussi remarquable calculateur a-t-il pu la commettre? On se perd en vaines conjectures. Ce qui est certain, c'est que le problème de la modification de l'axe terrestre étant correctement posé, il aurait dû être exactement résolu. Mais cet oubli de 3 zéros a produit une erreur de 12 zéros au résultat final. Ce n'est pas un canon 1 million de fois gros comme le canon de 27, ce serait 1 trillion de ces canons lançant 1 trillion de projectiles de 180 000 tonnes qu'il faudrait pour déplacer le pôle de 23 degrés 28 minutes, en admettant que la mélimélonite eut la puissance expansive que lui attribue le capitaine Nicholl. En somme, l'unique coup dans les conditions où il a été tiré au Kilimandjaro n'a déplacé le pôle que de 3 microns, 3 millièmes de millimètre, et il n'a fait varier le niveau de la mer au maximum que de 9 millièmes de microns. Quant au projectile, nouvelle petite planète, il appartient désormais à notre système où le retient l'attraction solaire, Alcide Pierre II. Ainsi, c'était une distraction de J.T. Maston, une erreur de 3 zéros au début de ses calculs qui avait produit ce résultat humiliant pour la nouvelle société. Mais si ses collègues du Gun Club se montrèrent furieux contre lui, s'ils l'accablèrent de leur malédiction, il se fit dans le public une réaction en faveur du pauvre homme. Après tout, c'était cette faute qui avait été cause de tout le mal, ou plutôt de tout le bien, puisqu'elle avait épargné au monde la plus effroyable des catastrophes. Il s'ensuit donc que les compliments arrivèrent de toutes parts avec des millions de lettres qui félicitaient J.T. Maston de s'être trompé de 3 zéros. J.T. Maston, plus déconfit, plus estomaqué que jamais, ne voulut rien entendre du formidable hourra que la terre poussait en son honneur. Le président Barbicane, le capitaine Nicholl, Tom Hunter aux jambes de bois, le colonel Blomsberry, le fringant Bilsby et leurs collègues ne lui pardonneraient jamais. Du moins, il lui restait Mrs. Evangelina Scorbitt. Cette excellente femme ne pouvait lui en vouloir. Avant tout, J.T. Maston avait tenu à refaire ses calculs, se refusant à admettre qu'il eût été distrait à ce point. Cela était pourtant. L'ingénieur Alcide Pierre II ne s'était pas trompé. Et voilà pourquoi, ayant reconnu l'erreur au dernier moment, lorsqu'il n'avait plus le temps de rassurer ses semblables, cet original gardait un calme si parfait au milieu des transes générales. Voilà pourquoi il portait un toast au vieux monde à l'heure où partait le coup du Kilimandjaro. Oui, 3 zéros oubliés dans la mesure de la circonférence terrestre. Subitement, alors, le souvenir revint à J.T. Maston. C'était au début de son travail, lorsqu'il venait de se renfermer dans son cabinet de Ballistic Cottage. Il avait parfaitement écrit le nombre de 40 suivi de 6 zéros, 40 millions sur le tableau noir. À ce moment, sonnerie précipitée du timbre téléphonique. J.T. Maston se dirige vers la plaque. Il échange quelques mots avec Mrs. Evangelina Scorbitt. Voilà qu'un coup de foudre le renverse et culbute son tableau. Il se relève, il commence à retracer le nombre à demi effacé dans la chute. Il avait à peine écrit les chiffres 40 000 quand le timbre résonne une seconde fois et lorsqu'il se remet au travail, il oublie les 3 derniers zéros du nombre qui mesure la circonférence terrestre. Eh bien, tout cela, c'était la faute à Mrs. Evangelina Scorbitt. Si elle ne l'eût pas dérangé, peut-être n'aurait-il pas reçu le contre-coup de la décharge électrique, peut-être le tonnerre ne lui aurait-il pas joué un de ces tours pendables qui suffisent à compromettre toute une existence de bons et honnêtes calculs. Quelle secousse reçut la malheureuse femme lorsque J.T. Maston dut lui dire dans quelles circonstances s'était produite l'erreur. Oui, elle était la cause de ce désastre. C'était par elle que J.T. Maston se voyait déshonoré pour les longues années qui lui restaient à vivre, car on mourait généralement centenaire dans la vénérable association du Gun Club. Et après cet entretien, J.T. Maston avait fui l'hôtel de New Park. Il était rentré à Ballistic Cottage. Il arpentait son cabinet de travail, se répétant « Maintenant, Je ne suis plus bon à rien en ce monde.
« Pas même à vous marier !»
dit une voix que l'émotion rendait déchirante. C'était Mrs. Evangelina Scorbitt, éplorée et perdue. Elle avait suivi J.T. Maston.
« Cher Maston !»
dit-elle. « Eh bien, oui, mais à une condition, c'est que je ne ferai plus jamais de mathématiques. »«
Ami, je les ai en horreur !»
répondit l'excellente veuve. Et le secrétaire du Gun Club fit de Mrs. Evangelina Scorbitt, Mrs. J.T. Maston. Quant à la note d'Alcide Pierre II, quel honneur, quelle célébrité elle apporta à cet ingénieur et aussi à l'école en sa personne. Traduite dans toutes les langues, insérée dans tous les journaux, cette note répandit son nom à travers le monde entier. Il arriva donc que le père de la jolie provençale, qui lui avait refusé la main de sa fille parce qu'il était trop savant, lut la dite note dans le Petit Marseillais. Aussi, après être parvenu à en comprendre la signification sans aucun secours étranger, pris de remords et, en attendant mieux, envoya-t-il à son auteur une invitation à dîner.